parler de la résurrection de la chair. Avant de parler de la résurrection de la chair, un petit cours rapide d'anthropologie. Anthropologie, vous savez, c'est l'anthropologie, c'est le langage sur la personne humaine, sur l'homme. De quoi est composée la personne humaine? C'est important pour ce qu'on a à voir, et puis ça a énormément de conséquences, parce qu'il y a plusieurs visions, évidemment, de la personne humaine, comme vous en avez écouté. Dans la personne humaine, et entre autres, la relation entre l'âme et le corps. L'âme, on appelle âme principe de vie. L'âme humaine est un principe de vie en nous. On dit que l'âme est dans le corps. Non, ce n'est pas l'âme est dans le corps, c'est l'âme est principe de toute la personne humaine. Un principe qui est principe de la vie, ce qu'on appelle végétative. La vie végétative, c'est quoi? C'est la vie du corps. Et là, il n'y a pas besoin de l'intervention. Quand la santé est au rendez-vous, eh bien, vous êtes en train de digérer, nous sommes en train de digérer notre petit déjeuner, il n'y a pas d'acte volontaire à poser, ça se fait tout seul. Mais heureusement qu'on a une âme qui nous permet, qui est le principe de la vie végétative. La vie sensitive, et vie sensitive, vous avez sous deux acceptions, premièrement, les sens externes. Les sens externes, les cinq sens, les sens internes, parce qu'on appelle les sens internes, on appelle la mémoire, l'imagination, ce qu'on appelle la cogitative. C'est un peu le lien entre l'intelligence et l'émotion. C'est-à-dire que je perçois, tiens, cette personne-là, elle a fait tel geste à tel moment, ça ne convient pas, c'est pas adapté à la situation. Même si je me mettais comme ça, ou je vous parlais toute la vie, tiens, ils ne sont pas vers nous. C'est pas adapté. Donc, la cogitative, c'est ce sens, et c'est très important, qui permet de voir ce qui convient de faire, et pas convient de faire dans le sens convenance sociale, ça peut être, mais qu'est-ce qui est, après discernement, qu'est-ce qui est idoine par rapport à telle situation, telle circonstance, tel lieu, en fonction du lieu où on est, si on est sur une plage, si on est dans une église, on fait des choses qui sont différentes. Hein, si on est avec une personne, avec son chef, si on est avec son conjoint, on fait des choses différentes, etc. Du coup, c'est intéressant de voir la cogitative, et je dis ça parce que moi je cite beaucoup dans la préparation au mariage, c'est que les conjoints aient une perception des événements et des personnes assez raccord, assez, et je pense que ça, et je suis très, très attaché entre autres à la communion des intelligences, c'est-à-dire que vous puissiez avoir la perception du réel, vous puissiez réagir peut-être sur des angles différents, mais vous puissiez vous comprendre. Hein, si vous faites une blague et qu'il faut expliquer la blague à l'autre, pourquoi c'est drôle, évidemment, ça peut être lassant au bout de X années, parce que voilà. C'est beaucoup plus que vous le pensez, c'est l'intelligence de l'autre qui vous a séduit, voilà, c'est cette capacité, c'est ça qui a fait que ça marche. Le corps, et bien sûr, pour que ça dure, c'est ce qui alimente l'amour aussi, cette capacité d'avoir une communion entre les sens internes, les sens externes. Et puis, toute la partie des émotions. des émotions, alors sous deux aspects, vous avez ce qu'on appelle le concupiscible. Le concupiscible, c'est-à-dire des émotions qui nous tendent vers le plaisir. Tout ce qui est en rapport avec la joie, le plaisir, etc. etc. Vous avez l'irascible. L'irascible, alors les mots sont piégés, ce n'est pas une personne irascible. Mais dans chaque point de nous, on a des émotions qui nous poussent vers des choses qui sont difficiles. Et là, ça poussait vers le plaisir. Donc l'irascible, et donc vous voyez par exemple tout de suite comment on a parlé des vertus théologales cardinales hier, au concupiscible. Correspond quoi, quelle vertu cardinale?
Tempérance.
À l'irascible, correspond quoi?
Force.
Force. La force, il y a deux actes de la vertu de force, je te rappelle. Il y a ce qu'on appelle l'agredire, c'est du latin. Aller à la rencontre de choses difficiles, challenger, à des choses difficiles, etc. Voilà. Et puis le soustinere. C'est tenir dans la difficulté. Pas tout à fait. C'est deux manières de pouvoir, je sais. D'aller, je vois que c'est difficile. Par exemple, je vois pas, cette situation, bah, du coup, il va falloir que je dise quelque chose à quelqu'un et c'est bon, bah, du coup, il me faut du courage pour aller à affronter la personne. Et soustinere, il y a une situation compliquée, etc. Et ensuite, dans le domaine des émotions, donc l'âme est toujours le principe de tout ça. Ensuite, il y a l'âme, donc c'est sensitive, émotionnelle, l'âme a ce qu'on appelle intellective. Intellective qui va avoir avec l'intelligence et la volonté. Alors, l'intelligence, quelle est la vertu cardinale qui. L'intelligence pratique, en tout cas, vient de prudence. Très bien, vous êtes super fort. Vous n'êtes pas si nul que ça, contrairement à. Et la volonté, quelle est la dernière justice qui vient régler la volonté pour que je veuille faire et rendre à chacun son bien selon ce qui lui est dû. Donc. C'est donc l'âme est principe de toute cette vie-là, et tout est humain en nous. Et ça, je pense que c'est important. Même notre manière de digérer est une manière humaine. Quand vous avez un enfant malade, vous ne l'emmenez pas chez le vétérinaire, en général. Sauf dans Les Fugitifs, quand vous avez vu le film Les Fugitifs, où Depardieu l'emmène chez le vétérinaire, il ne sait pas, il lui touche la truffe, non, il a la truffe fraîche, etc. Bon, maintenant, ça c'est dans les films, mais en général, parce que tout est humain. Même, bien sûr qu'on a, qu'est-ce qu'on a en commun avec les animaux? On a tout ça en commun avec les animaux. Dans les animaux, il y a une dimension évidemment de sens interne, il y a la dimension d'une certaine mémoire, d'une estimative, parce que dans cogitatif, il y a cogito, donc il y a intelligence, il y a raison. Donc l'estimatif, l'animal sait s'il doit aller dans telle situation, dans telle autre, etc. Mais ça, c'est de l'instinct et de son expérience. Les mémoires, il voit que s'il va vers son maître, il aura à manger, donc il retournera vers, etc. Et il y a des émotions. Il y a des émotions chez l'animal, le plaisir, l'émotion donc du coup de défendre son territoire, donc du coup d'attaquer, etc. Donc du coup, mais ça, ce qui est intéressant, c'est que on parle de l'immatérialité de l'âme humaine. Et ça, c'est quand même l'immatérialité. C'est-à-dire que. Et là, vous avez deux écoles. L'immatérialité, c'est-à-dire que dans la personne humaine, il y a quelque chose qui transcende la matière, qui va au-delà de la matière. Et quand on dit âme, on ne parle pas de religieux. Là, on n'est pas du tout dans le religieux, on est dans la philosophie. C'est-à-dire que vous avez des philosophes comme Platon, par exemple, comme Aristote. Hein, qui parle de l'immatérialité de l'âme, c'est-à-dire que à la perte, à la séparation de l'âme et du corps, donc âme et corps, c'est ce qu'on appelle la mort. séparation, alors qu'il y a une union substantielle de l'âme et du corps. C'est-à-dire que l'âme est faite pour notre corps et le corps est fait pour notre âme. Et c'est pour ça que la réincarnation, pour moi, n'a pas beaucoup de sens, parce que notre corps a fabriqué aussi notre manière de comprendre les choses, notre manière de notre volonté, notre courage. Une personne qui a un handicap, une personne qui a une maladie, une personne a développé un courage que n'auront pas développé, et ça c'est bien dans son âme. Et à contrario, ce qu'on appelle des difficultés émotionnelles, qui, ce qu'on appelle des maladies psychosomatiques, qui rejaillissent dans le corps. L'eczéma, etc. Donc, du coup, ça vient des émotions. Des émotions qui. Donc cette union, ce qu'on appelle substantielle, et la mort est un état de violence. Pour nous, on ne peut même pas s'imaginer sans notre corps. On ne peut pas s'imaginer. Je veux dire, la mort est un état de violence. On n'est pas fait pour. Parce que nous ne sommes pas des êtres spirituels, nous ne sommes pas de nature angélique. Nous ne sommes pas non plus de nature animale, simplement. Oui, on a en commun avec les animaux, mais on n'est pas de nature que animale. C'est ce qu'on appelle Aristote donnera la personne humaine comme un animal rationnel, doué d'une intelligence et d'une volonté. Et ça, ça transcende la matière. Ça va au-delà de la matière. Et vous avez une autre école, c'est le matérialisme. Alors, c'est défendu par plusieurs philosophes. Le matérialisme, pas dans le sens de l'accumulation des biens, hein, on est en philosophie, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui veulent amasser des richesses, etc., qui disent que dans la personne humaine se limite à la matière, il n'y a rien qui va au-delà de la matière. La décomposition de la matière veut la décomposition de toute la personne humaine. Et donc on voit bien que dans cette logique-là, l'intelligence, en fait, n'est que l'état le plus avancé de la matière. Il y a eu un avancement de la matière, il y a eu un perfectionnement de la matière, etc., qui a donné l'intelligence et la volonté. Mais ce que l'on disait hier, je pense que c'est avec vous, c'est que dans ce cadre-là, par exemple, entre nous et les animaux, il y a une différence de degré, pas de nature. Il y a juste une évolution, et puis nous, on est au stade du type de l'évolution, mais quelque part, alors que dans l'immatérialité de l'âme, il y a un saut. Hein, donc vous avez les deux écoles, alors évidemment, toute la philosophie moderne est basée sur le matérialisme. Et donc aussi, quelque part, dans la manière de connaître, ça a une implication. Parce que l'intelligence, comment est-ce qu'on connaît? On connaît par nos sens, les sens internes, externes. Les sens externes, il y a un adage qui dit que rien ne rentre dans l'intelligence sans passer par les sens, les cinq sens. Comment est-ce qu'on a pu se connaître? On s'est déjà revu, on s'est écouté, d'abord, il y a le corps de l'autre, le visage de l'autre, etc. Bon, c'est les cinq sens qui viennent féconder mon intelligence et la nourrir. Alors que dans des visions plus matérialistes, vous avez, c'est qu'il y a quelque chose qui, chez Kant, par exemple, qui est vraiment le philosophe par excellence qui parle de ça, c'est qu'il y a une connaissance a priori. A priori, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça, ça vient entre autres de Descartes. Chez Descartes, vous aviez, il dit, je ne sais pas si vous rappelez votre classe de terminale, ça remonte un petit peu pour certains en tout cas, la question du bâton. Vous vous rappelez chez Descartes la question du bâton trempé dans l'eau? Le bâton trempé dans l'eau, ben, du coup, quand on trempe le bâton dans l'eau, il s'en casse. Et donc, chez Descartes, la conclusion, les sens nous trompent. Donc il ne faut pas partir des sens. Il dit non, c'est je pense, c'est parce que je pense que je suis. C'est je pars d'une connaissance a priori, ce n'est pas le réel qui vient féconder, c'est moi qui dis au réel qui il est. Et non pas, c'est pas le réel qui vient féconder mon intelligence, qui me permet d'abstraire le réel et de nommer les choses. Ça a des conséquences énormes en plan théologique. Vous voyez, vous arrivez bien, ça a des conséquences énormes au plan théologique. Si c'est le réel qui féconde mon intelligence, du coup, je suis dans une attitude d'accueil. Par rapport à ma relation avec Dieu, évidemment, ce sera différent. Si c'est moi qui, au fond, de façon a priori, dis que Dieu, au fond, c'est le Dieu des philosophes, c'est celui qui vient tenir mon raisonnement, mais comme un outil dans une boîte à outils, qui vient me servir, voilà, et que j'utilise pour... C'est pas du tout pareil, on n'est plus dans une relation. Donc, je pense que c'est important de voir que cette relation de l'âme et du corps, en tout cas, et de cette manière de connaître la connaissance, non par l'essence, mais une connaissance a priori, hein, c'est vraiment deux écoles qui sont différentes. Évidemment, le matérialisme est athée. C'est le matérialisme athée, vous entendez parfois cette expression-là. Hein, parce que l'homme lui-même se suffit, son intelligence se nourrit d'elle-même, et ça a donné beaucoup les idéologies du XXe siècle. Parce que l'idéologie, précisément, c'est le refus de se laisser questionner par l'extérieur. C'est que je me repais de mon intelligence. C'est mon intelligence elle-même qui circule en boucle, quelque part fonctionne en boucle, et donc du coup je ne suis plus dans l'accueil extérieur, et encore moins dans la critique ou la remise en cause, mon intelligence moi. Donc le matérialisme athée a été à l'origine des grandes idéologies meurtrières du XXe siècle, alors qu'on pensait que justement la raison au XIXe siècle c'était la Révolution française, la déesse raison, etc. Donc elle allait nous sauver, le progrès allait nous sauver. Voilà, donc juste pour le rapport entre le corps et l'âme, donc il y a une union substantielle, hein, l'âme, les principes de vie, mais corps et âme entre l'intelligence, singulièrement l'âme intellective et puis le corps, c'est une union substantielle. C'est-à-dire on ne peut pas exister sans l'un sans l'autre, substantiel. Donc voilà, c'est une union substantielle. C'est-à-dire que l'âme n'est faite que pour le corps, et c'est ce corps-là dont l'âme est principe, et cet âme-là est principe de vie de ce corps-là. Donc on comprend que, quand on parle, on va regarder un peu le catéchisme, quand on parle de résurrection de la chair, alors ça reste mystérieux, parce que ça veut dire depuis le premier Adam jusqu'à maintenant, on sera appelé à ressusciter. Mais Dieu qui crée tout de rien, c'est pas ressusciter. On va retrouver un bout de fémur, on va essayer de retrouver un crâne, etc. On va s'il y en a encore, on va mettre un peu. Non, c'est de rien, Dieu a fait tout. Donc pour Dieu lui-même, c'est pas une difficulté. Et donc il y aura une perfection plus grande, un bonheur plus grand, ressuscitant avec notre corps qu'en vivant dans la vision de Dieu sans notre corps. Notre corps sera associé au bonheur de Dieu. Comme le corps des damnés sera associé à leur malheur, parce qu'ils ont vu les damnés, ce sont ceux qui voient l'amour de Dieu comme une menace. Hein, les démons, on l'a dit. Maintenant, Dieu seul sait qui habite l'enfer, mais l'enfer est une miséricorde. L'enfer, c'est le signe de notre liberté. On peut aller aussi loin. Quelque part, on peut aller tellement loin que connaissant Dieu, on peut le rejeter. Connaissant Dieu, on ne veut pas dépendre. Maintenant, au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe? Dieu seul le sait. Mais je trouve, voilà, donc, c'est vrai que dans notre foi catholique, le corps est très peu sollicité. Contrairement chez les orthodoxes. Chez les orthodoxes, je ne sais pas si vous y êtes allé, vous avez, déjà, il n'y a pas de banc. Mais vous circulez, alors vous allez faire la vénération aux icônes, vous faites une métanoïa, c'est une signe de croix, vous touchez par terre, vous pouvez sortir, vous pouvez rentrer, c'est 2-3 heures, alors, du coup, vous avez le bistrot, puis vous rentrez, parce que c'est tout à fait une autre, pour la représentation architecturale des églises orientales, hein, c'est avec des dômes, le dôme, c'est-à-dire dire le royaume de Dieu est déjà là, ça veut dire on rentre dans le royaume de Dieu, donc on voit tous les saints, clocher vertical, on tend, on est dans la terre et on va vers Dieu. Donc c'est, les deux sont vrais, mais c'est juste des approches qui sont différentes. Donc, mais je trouve que dans la foi catholique, alors le corps est assez peu sollicité. Alors même si on fait des chants gestuels, etc., fille de Dieu, on oublie comme ça, c'est très bien. Non, mais c'est très bien parce que du coup ça, on peut, oui, les gestes du corps dans la liturgie sont importants. Parce qu'on ne peut pas partir, la vie spirituelle ne peut pas se passer de notre corps. Et vouloir dire, il y a eu des tendances comme ça pendant l'Église qui ont été condamnées, dire maintenant il faut sortir de notre corps parce que notre corps nous empêche, en tout cas diminuer le corps nous empêche d'aller vers Dieu. Et vous avez eu comme ça, surtout les premiers chrétiens qui étaient des néoplatoniciens. Vous savez que les néoplatoniciens, c'est ce que Platon pense que c'est la vraie réalité, c'est pas celle-ci, la réalité c'est dans le monde des idées. Les idées n'étant plus réelles que ça. Et donc, pour contempler le monde des idées, il faut s'abstraire de son corps pour aller contempler. Mais c'est pas du tout une vision chrétienne. Même si les premiers chrétiens, parce qu'ils ont dit, oui, mais ce qu'a retenu l'Église, c'est plutôt une vision d'Aristote, qui dit que mon corps et mon âme sont appliqués dans ma vie spirituelle. Hein, qui veut faire l'ange fait la bête. Dicton. Et il y a eu comme ça des gens, que ce soit les cathares par exemple, les purs, dès qu'il y a des gens qui veulent laver plus blanc que blanc. Oui, du coup, on se dit, mais du coup, la dimension d'incarnation. Mais l'Église a mis du temps, ne serait-ce que par rapport à la vocation du mariage. L'Église a mis du temps à trouver. Là, quand vous égonisez saint Paul, le mariage, bon, c'est ceux qui ne peuvent pas se retenir, bon, qui prennent femme, c'est tout. Voilà. Oui, c'est ça. Le mariage, c'était, voilà, les purs, les saints, etc., ce sont ceux, voilà, qui vivent dans la continence, et du coup, ça a été toute la mise en avant du monachisme, hein, de la vie monastique dans l'histoire de l'Église. Il y a une vie monastique qui a été très valorisée, hein, qui était la manière d'avoir le martyr comme suite du Christ, mais à la conversion de l'empereur Constantin en 325, où tout le monde, le christianisme s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen, etc. Et du coup, comment on se disait, mais comment suivre le Christ de façon la plus radicale? Et du coup, ça a été la vie monastique. Mais le mariage étant vraiment vu comme un pis-aller. Et je trouve que c'est seulement avec le Concile Vatican II, c'est-à-dire récemment, il y a 50-60 ans, où on a reconnu au mariage cette dignité de vocation et de lieu de sanctification. Et non pas simplement la vie religieuse comme une école de sainteté. Mais c'est normal, l'Église puise dans son trésor, et le neuf et l'ancien, c'est ce que dit l'Évangile, dans son trésor, elle puise des choses, elle se rend compte des choses. Et encore une fois aussi, avec Jean-Paul II, c'était très important, sur la théologie du corps. Parce qu'on peut se dire, c'est étonnant pour une religion qui prône l'incarnation d'avoir une si piètre idée, j'allais dire, du corps humain, en tout cas pas une valorisation. Et l'Église avait. Et du coup, ça fait que l'Église a transmis pendant plusieurs siècles une image assez négative de la sexualité, voire pécamineuse, voire c'est quelque chose de sale, c'est quelque chose de sale. Ça a habité quand même. Vous voyez Saint etc., il ne vous fait pas de cadeau. Hein. Donc, quand il parle de la sexualité, du mariage, etc. Bon, c'est... Mais justement, la théologie du corps, je crois que vous avez étudié la théologie du corps de Jean-Paul II, c'est quelque chose que pas tellement. Alors, ça, c'est très important. Parce que Jean-Paul II, déjà comme prêtre, puis comme évêque, et ensuite comme pape, a travaillé beaucoup sur le plan de Dieu sur la sexualité de l'homme et de la femme, sur cette union, etc. Et derrière ça, la volonté. Qu'est-ce que c'est que le corps humain? Et dans la théologie du corps, le corps de Jean-Paul II, donc, c'est pas le corps de Jean-Paul II, hein, c'est la théologie de Jean-Paul II. Donc, vous trouverez, je ne vais pas porter ici, mais peut-être un livre qui est assez connu, c'est de Yves Semaine. La sexualité selon Jean-Paul II. Alors, c'est un peu ardu comme livre, mais il parle du corps humain, c'est intéressant la manière dont il parle du corps humain sous deux aspects. Premièrement, il dit que le corps renvoie toute la personne. Le corps n'est pas simplement l'enveloppe charnelle. Le corps dit toute la personne, et s'unir au corps de l'autre, c'est s'unir à toute la personne de l'autre. Et non pas en pensée s'unir avec la petite stagiaire qui vient d'arriver, qui dit pas lui, pas mignon, etc. Donc du coup, je vais aller vagabonder ma pensée, mais du coup, je ne suis pas là avec mon conjoint. Je m'unis au corps de l'autre. Et puis, et donc je m'unis à la personne de l'autre. Et qu'est-ce qui, regardez dans votre histoire, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que d'abord, vous avez été ami du corps de l'autre. Sans dire, mais vous avez été le corps de l'autre, quelque part vous avoir envoyé une image positive, ou quelque chose qui vous a attiré, le visage de l'autre, la manière d'être, la manière de se mouvoir dans l'espace, etc. Vous avez été d'abord ami du corps de l'autre. Parce que le corps reflète la personne. Et le corps dit quelque chose. Et puis deuxièmement, j'appelle la cite sur un autre point, c'est que le corps rend visible. Le corps rend visible l'invisible. Et il dit dans deux cadres. Premièrement, dans le cadre de Jésus-Christ, le corps du Christ rend visible l'amour invisible de Dieu. Et dans le cadre de l'union des époux, et c'est pour ça qu'il dit que l'union des époux n'a pas simplement une vertu procréatrice, elle a une vertu aussi unitive. Même si vous avez décidé de stopper la fabrique de bébés, c'est pas pour ça que vous ne vous unissez pas. Parce que justement, le corps rend visible l'amour invisible qui vous habite. Comment est-ce qu'on fait pour rendre visible l'amour? Montrez-moi, c'est par le corps, je vous le montre. Évidemment, en Jésus, le corps du Christ, offert pour nous sur la croix, rend visible l'amour invisible du Père. Donc évidemment, le corps, ça renvoie, on est entouré de corps partout dans la foi catholique, si j'ose dire. Il y a le corps que forme l'Église, c'est ce qu'on appelle le corps mystique, et puis il y a le corps eucharistique. Et on voit bien que c'est intéressant, c'est sous ces aspects du pain et du vin, c'est le corps et le sang du Christ qui nous est livré, qui nous permet d'appartenir au corps qui nous formons un seul corps. Nous sommes le corps du Christ. Vous connaissez, voilà. Donc du coup, mais le fait de former un seul corps, et Saint Paul en parle très bien, de même que les jointures, l'unissent les membres, etc. Nous sommes différents membres, nous sommes membres des uns des autres, mais si nous sommes, la tête n'est pas l'œil, il ne veut pas dire je me passe de toi, et la main ne peut pas dire au pied je me passe de toi, nous sommes membres d'un seul corps par le baptême, et donc c'est ce qu'on appelle le corps mystique, le corps qui nous unit. L'Église n'est pas simplement une institution hiérarchique, comme vous voyez, c'est une institution mystique, spirituelle, avec aussi les défunts. Auprès du Seigneur. Et donc, on a la résurrection de la chair, on va travailler sur ça, mais la résurrection de la chair, elle a été vécue par l'expérience qu'on a, évidemment, c'est le Christ, hein, qui a ressuscité dans sa chair, et ensuite est monté aux cieux avec l'ascension, qui est montée aux cieux avec son corps et son âme, et puis la Vierge Marie. Marie avec l'ascension. C'est quoi la différence entre la théologie, entre ascension et assomption, hein? Parce que dans les deux cas, on se retrouve avec le corps et l'âme. Alors, Jésus est mort aussi. Alors, il y a deux traditions, ça c'est bien, il y a deux traditions. Alors, l'assomption, Vous avez ce qu'on appelle la dormition. Et puis, le fait et l'assomption. Voilà, et donc, le dogme, parce que c'est le dernier dogme qui a été proclamé par Pie XII, hein, de dire que Marie, il ne sépare pas, parce qu'en Orient, on parle plus de dormition, et Marie aurait été élevée en âme et corps au ciel. La tradition catholique veut plus dire qu'il y a une mort, une rupture, comme là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, ça base sur un certain nombre de paroles du Christ. Donc, évidemment, ça s'applique de façon suréminente à la Vierge Marie. Hein, donc, du coup, là où je suis, je serai mon serviteur. Donc, si la Marie était la suite du Christ, il n'est pas déraisonnable de penser qu'elle l'a suivi aussi dans la mort. Oui, c'est souvent, dans le raisonnement théologique, c'est souvent comme ça que ça fonctionne. C'est l'argument de convenance. C'est-à-dire que il convient au disciple qu'il n'est pas plus grand que le maître. Donc, si le disciple suit le maître, il n'est pas impensable de penser que de concevoir que Marie a été morte. Bon, mais c'est des traditions dans les différents. Dans le dogme lui-même, Pie XII dit à la fin de sa vie terrestre. Il ne dit pas comment, à la fin de sa vie terrestre. Mais bon, c'était pas ça que je voulais dire. Quel est théologiquement la différence entre ascension et assomption? Bon, l'ascension concerne le Christ, l'ascension Marie, etc. Bon, peu importe ce soit, elle est élevée en âme. Oui.
L'ascension, on monte.
Oui.
Et l'ascension, on monte, il y a une
version en descendant. Non, on ne sait pas. Non, sinon, ça se saurait. Si Jésus était redescendu pour Dieu dans la gloire, ben c'est simple. Hein. C'est prévu. Voilà, on voit qu'il y en a qui ont été à bonne école, formés. Dans l'ascension, le Christ est principe actif. Dans l'assomption, assomption veut dire assumé. Mais assumé par qui? Assumé par Dieu. Mais le Christ ne doit pas être assumé par Dieu puisqu'il est Dieu. Donc lui-même est le principe actif de la glorification de son âme et de son corps humain. On a vu l'âme et le corps humain du Christ, hein, vous vous rappelez bien, vous regardez tout, hein, que vous, les deux natures, etc. Donc cette nature humaine, elle a été en contact avec le Verbe de Dieu, elle a été élevée pas parce que c'est le Verbe de Dieu, mais il n'a pas besoin d'air, alors que l'assomption, et pour nous ce sera pareil, on va être assumé. Marie est la première, hein, comme on dit, la première en chemin. Bon, voilà, c'est la première, et la première qui nous trace le chemin, voilà, qui a été assumée comme nous serons. Alors, elle de façon particulière, parce que sa vocation a été particulière, mais elle est source d'espérance pour toute l'humanité. Et c'est assez intéressant que ce dogme de l'Assomption a été fait, je pense, en 1951. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça, c'est intéressant de le relier aussi à la. Parce que l'assomption de la Vierge Marie, ça se fait depuis des siècles. Hein, le vœu de Louis XIII, etc. Bon, ben, tout ça, donc ça c'est dans la foi de l'Église, bien avant que le dogme soit édicté, c'est souvent comme ça. Il y a d'abord la foi populaire, c'est l'Église elle-même qui dit, voilà, Marie est montée avec son âme et son corps. Et donc, dans l'Église aussi, ben, on voit le trace de l'Esprit Saint, et du coup, le théologien travaille là-dessus. Donc du coup, mais c'est beau de voir que ce soit après la Deuxième Guerre mondiale où la personne humaine a tellement été dégradée. Justement, ça, c'est un signe d'espérance que le péché est tellement manifesté dans les guerres en général et singulièrement dans celle-ci, que le péché n'aura pas le dernier mot sur notre âme et notre corps. Mais en Marie, on voit comme une espérance, celle qui redonne confiance à la nature humaine. Qui nous redit la beauté de la nature humaine malgré tant de laideur, malgré tant de souffrance et de défiguration. Voilà, je voulais vous parler de ça, un petit peu comme une introduction à la résurrection de la chair, mais c'est un peu bien savoir de quoi on parle. Alors si vous voulez distribuer les feuilles. Vous avez des questions là-dessus? Alors c'est, je vous prends comme ça au lever. Mais en
en tout cas sur tout ce qui est l'anthropologie, c'est très important. Parce que ça a des conséquences considérables.
Oui.
Dans nos entourages, mais aussi dans la vie civile, politique, etc., dans la société, on observe des questions fréquentes. Dans l'entourage, je pense à plusieurs situations où on peut assister à des crémations.
Oui.
Et ça se suit par une grande émotion générale, par une sorte de culte qu'on pourrait presque assimiler à un culte des saints, pour des gens qui se proclament agnostiques ou athées, parfois athées militantes, c'est des cas précis. Mais je me suis mis ça en parallèle avec ce qu'on observe dans notre République, par exemple, lors des panthéonisations,
oui.
Dans une ancienne église. Oui.
Une canonisation.
Et dans toutes ces circonstances-là, on entend dire il vit toujours par ceci, par cela, par ce mot qu'il a laissé, par ces œuvres qu'il a faites. Et ça se situe quelque part entre les deux catégories que vous avez isolées, l'athéisme et notre spiritualité, nous, notre chrétien.
Oui.
Et alors, je le dis, je ne sais pas si c'est une question, mais enfin, c'est quelque chose qui moi, me frappe à chaque fois, quelquefois m'énerve. Et aussi,
il est difficile de se résoudre au néant. C'est ça la question.
Oui,
c'est qu'il est difficile, même pour un athée, vous me direz l'autre, je suis athée grâce à Dieu, il est difficile de... Il y a quelque chose, il y a ce qu'on appelle le sentiment religieux qui, en chaque personne, dit, mais ça ne peut pas avoir de fin, non pas parce que simplement... on regrette l'être, on va parler de la mort justement, on regrette l'être défunt, etc. Ça, mais il y a comme une. Et on voit dans toutes les religions, les traditions, le culte des ancêtres. Pourquoi la Chine n'est pas devenue catholique? C'est un peu à cause de Rome, j'allais dire. Parce que Matteo Ricci, donc jésuite, qui avait été évangélisé en la Chine avec beaucoup de jésuites, etc. etc. mais à un moment donné, l'empereur lui dit bah, nous, on a le culte des ancêtres. Alors, on a envoyé ça à Rome. Non. Nous, c'est le culte des saints. C'est non, je ne serais pas catholique. Bon, on a perdu 1 milliard et quelques de catholiques. Donc, comme quoi, c'est ballot, quoi. Parfois, il suffit d'un peu d'arrondissement, alors qu'on aurait pu très bien le culte des ancêtres. Mais c'est parce qu'on a avancé, parce que l'église de Matteo Ricci n'est pas du coup l'église de maintenant. Justement, dans l'inculturation, on essaye de trouver ce qu'on appelle les semences du Verbe, de voir comment il y a quelque chose que l'on peut récupérer et qui a à voir avec la vie chrétienne. Et dans cette histoire de panthéonisation, c'est une canonisation qui dit pas son nom. Mais même, par exemple, dans l'islam, où il y a vraiment un interdit du culte aux ancêtres, etc., aux défunts, vous avez vu à Tombouctou les mausolées, parce qu'il y avait des personnes qui étaient saintes, et que la population considérait comme saintes. Et du coup, on leur a construit des mausolées, et du coup, les gens venaient vénérer et demander des grâces auprès de la personne qui avait une odeur de sainteté. Dans le lieu où il était. Et du coup, les islamistes sont arrivés là-dedans, ils disent non, il n'y a aucune médiation dans l'islam. Donc du coup, ils ont c'était des œuvres d'art en plus, ils ont complètement rasé les mausolées parce qu'ils disent non, c'est pas dans l'islam pur et dur, ce qui est juste. Ah, oui, donc, mais du coup, c'est tout ça pour dire que dans la personne humaine, par rapport à la mort, il y a ce désir de dire du contact avec. Selon les cultures très très différentes, ce contact avec une permanence de l'âme humaine dans l'au-delà, il y a autre chose. Et ça, dès l'Antiquité, dès que l'homme est l'homme, et c'est aussi une différence avec l'animal. Je ne suis pas spécialiste, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'animaux qui enterrent, par exemple, leur mort. Est-ce que vous pourriez poser la question, peut-être des gens spécialisés sur... Peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais c'est, en tout cas, ce n'est pas d'un acte volontaire et communautaire, et puis de venir se recueillir, etc., etc., sur les tombes des défunts. C'est strictement humain, ça. Parce qu'il y a ce sentiment religieux, il y a quelque chose en nous qui nous dit que Il y a, ça peut pas, il y a, on n'est pas fait pour le néant. Et quelquefois, et quelque part, je veux dire, ces questions-là de matérialisme et d'immatérialité du corps posent la question, notre vie est absurde ou notre vie est mystère? C'est ça la question. Est-ce que notre vie est juste un absurde? Ou est-ce qu'il y a quelque chose, mystère, ça vient du grec muo, muo ça veut dire caché, il y a quelque chose de caché en nous qui passe nous-mêmes, qui nous transcende. Dans la personne humaine, il y a quelque chose de caché. Et dans le service de la personne humaine, évidemment, le christianisme, etc., a été en tête par l'éducation, par les hôpitaux, etc., parce que justement, il y avait cette identification au Christ qui a pris notre nature humaine, qui dit que dans chaque personne humaine, il y a un respect à avoir, justement parce qu'il y a quelque chose de transcendant. Il y a l'homme passe l'homme. Et, donc tout, et puis, bon, cette union au Christ après. Donc, du coup, bon, c'est des choses qui sont très importantes. Et au niveau de la société, c'est très important, parce que si, pour tout ce qui est le respect de la vie, etc., si je crois que je ne suis qu'un amas de cellules, point barre, bon ben voilà, du coup on peut faire tout. Là je voyais aux infos, on enlevait des gènes sur des embryons, on travaillait sur les embryons pour enlever des gènes malades de une maladie cardiaque quelconque, etc. Ben, du coup, voilà, c'est. On travaille ça comme un matériau. Je vois par exemple des personnes qui ont eu recours à la PMA, à la FIV, etc. Ils me disent, mais. C'est la fabrication, on rentre dans un protocole, on oublie le romantisme, on rentre un protocole dans une fabrique. Et je dis, mais fabriquez-en plusieurs, comme ça on verra si ça marche, ça ne marche pas. Vraiment, c'est comme une banalisation, quoi. On perd de vue l'humain, c'est ça la question, c'est que la perte de la foi chrétienne nous fait perdre de vue l'humain. C'est pas sans conséquence. Oui.
Qui pendant 9 mois sont coupées de leur famille, vivent dans des lieux spécifiques. Et ensuite, elles n'ont pas le droit de voir leur enfant, elles le confient à la
famille. Oui, alors c'est la GPA, etc. Ça, c'est bon, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est pas tout à fait. Oui, oui. Oui, non, mais c'est. Bon, ça pose d'autres questions, mais c'est plus de dire est-ce qu'on a le droit à l'enfant à tout prix ? Ben non, la nature parfois est cruelle. On voudrait en avoir plusieurs, on en a qu'un, ou on en a zéro, et puis on voudrait. Voilà. Le septième, on ne l'avait pas forcément prévu, etc. Donc, mais voilà, je trouve que la vie, l'accueil de la vie, justement, c'est ça qui nous descend, qui descend le couple, qui fait que le couple est au service de plus grand que lui. C'est que dans cet accueil de la vie qu'il ne maîtrise pas et que et qui fera trouver aussi, je trouve, le bon curseur entre vie professionnelle et vie personnelle. J'ai accompagné là. Pendant la retraite, dernière retraite de fiancée, un couple de médecins, elle est déjà thésée, lui est en internat, mais du coup elle se demandait si, parce que elle pouvait faire des études pour être le référent régional, voilà, donc c'est quelque chose qui est assez pointu, etc. Donc il fallait d'abord 2 ans de clinica plus 1 an de formation, donc déjà avec ses 10 ans, ça faisait 13 ans d'études. Donc. Mais du coup elle avait 32 ans. 32, là, ça fait 35. Mais, je dis, mais est-ce que l'accueil de la vie n'est pas aussi, vient là, réguler quelque part ta vie professionnelle? Elle me dit, mais si je ne prends pas ce truc-là, du coup, je n'aurai pas l'autre. Bon, je trouve que ça nous descend, ça descend aussi le couple de lui-même. Quoi. Alors, avec une paternité, une maternité responsable, bien sûr, tout le monde ne peut pas porter X nombre d'enfants pour n'a pas l'énergie aussi, je pense. Mais je trouve ça intéressant de dire que la vie humaine et l'accueil de la vie vient décentrer, vient remettre le curseur, ou l'accueil de la vie, ou simplement l'éducation des enfants. Sans avoir de nouvel enfant, de dire, bah, qu'est-ce qui, ça remet le curseur à sa place, quoi. Parce qu'on a toujours, on peut avoir tendance à s'enfermer sur soi-même et à idolâtrer sa propre profession ou sa propre carrière. Alors, la résurrection de la chair. Alors, on va commencer, on terminera. On va aller au numéro 997. dans la mort, séparation de l'âme et du corps, le corps de l'homme tombe dans la corruption, alors que son âme va à la rencontre de Dieu. Quand on dit son âme, c'est son âme intellective, et c'est-à-dire sa volonté, son intelligence, va à la rencontre de Dieu. Juste un petit point, là, les personnes qui sont handicapées mentales. Les personnes handicapées mentales, on dit de façon pudique, vous avez peut-être entendu l'expression, elles sont blessées dans leur intelligence. C'est pas juste de dire ça. C'est que l'intelligence demande un substrat important au niveau du corps, au niveau végétatif. Si vous avez, pourquoi ne serait-ce qu'une rage de dents, bah, essayez d'étudier intellectuellement, c'est compliqué. Si vous avez un trouble dans un des sens interne, etc., c'est que l'intelligence et la volonté demandent un substrat humain, physique, et donc ces personnes-là, les personnes handicapées mentales, c'est plutôt dans ce substrat-là qui est blessé que dans l'intelligence. Qu'est-ce qui blesse l'intelligence? Il y a deux choses, c'est l'ignorance et l'erreur. Donc, au début, quand je suis revenu en France, j'étais un petit peu à l'arche, etc., de Jean Vanier, m'occuper une fois par semaine de donner à manger, voilà, avec un adulte lourdement handicapé. Bon, mais je voyais bien que j'avais une volonté en face de moi. Ne serait-ce que se laisser nourrir, de se laisser alimenter, ben parfois, non, je me percevais bien qu'il y avait une volonté. L'intelligence a été limitée dans son expression, mais c'est important de dire que toute personne humaine, quel que soit son état et de fragilité, etc., il y a son âme, son intelligence, sa volonté est amenée à contempler Dieu, à connaître Dieu, et c'est ça la béatitude. La béatitude, c'est que la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu vient combler tout. Et vous connaissez la parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus par rapport au vers, hein, alors de dire, mais est-ce que il y en a qui ont beaucoup de capacités, il y en a qui ont peu de capacités, etc., etc. Elle dit, mais non, c'est comme les vers, les saints, c'est comme les vers. Ils seront tous pleins, donc il n'y aura pas de jalousie au royaume, mais le fait de se former ouvre notre intelligence à une contemplation plus grande de Dieu. Et ça, d'où l'importance, moi, c'est un peu ardu, c'est sûr, j'essaie de le rendre à peu près digeste, mais... l'information, moi je vois au niveau professionnel le nombre de formations qu'on suit, etc. Il y a des crédits de formation, etc. Je trouve ça très bien. Hein. Et je ne vois pas pourquoi au niveau de la vie de foi, il n'y aurait pas aussi un travail intellectuel à faire sur votre foi. Et voilà, plus ou moins vous en donner le goût, c'est ce que je souhaite. Alors, séparation de l'âme et du corps, voilà, qui tombe... L'âme va à la rencontre de Dieu tout en demeurant en attente d'être réunie à son corps glorifié. Dans sa toute-puissance, Dieu dans sa toute-puissance rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à nos âmes par la vertu de la résurrection du Christ. C'est le Christ est notre modèle, c'est nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu, nous sommes invités à être les disciples du Christ. Et toute personne, on verra, qui ressuscitera, tous, parce que si on imagine une plénitude, on ne l'imagine pas sans notre corps. Hein, et donc, du coup, c'est le Christ est le premier qui nous a ouvert le chemin pour toute l'humanité, qui rend possible la résurrection et le cœur même de notre foi. Si on ne croit pas en la résurrection, on n'est plus chrétien. Oui. Le corps glorieux, alors on en a pas beaucoup de... On n'a qu'une image, qu'une expérience, c'est le Christ. Donc, dans les récits après la résurrection, vous voyez que, par exemple, les disciples d'Emmaüs, le Christ est avec son corps glorieux, c'est-à-dire que le corps qui rayonne de la gloire de Dieu, alors on l'a vu au moment de la transfiguration, c'est dimanche, là. Donc la transfiguration déjà manifeste cette divinité, mais c'est ce corps-là qui est empli de la gloire de Dieu, mais qui n'est pas comme une manière d'habiter notre corps aujourd'hui. Alors on balbutie, en tout cas je balbutie, dans les disciples d'Emmaüs, ils ne l'ont pas reconnu. Marie-Madeleine ne l'a pas reconnu. Mais en même temps, c'est un corps, Alors, ça peut paraître. Un corps qui franchit, les portes étant fermées, il entra. Et on dit qu'il est là, et en même temps, ce qu'on appelle la bilocation, et en même temps dans d'autres. Donc, nous faisons confiance aux témoignages. Notre foi se fonde sur des témoignages. Les évangiles sont des témoignages. Ce n'est pas Dieu qui a pris le stylo bille, comme dans le cadre de la loi de Moïse, etc., avec l'écriture de Dieu, vous avez entendu ça cette semaine, c'est assez étonnant, mais non, nous, c'est des témoignages. Et donc, du coup, de témoignage en témoignage, depuis les apôtres, le témoignage de la foi s'est transmis de personnes qui ont vu le Christ ressuscité. Mais bienheureux celui qui croit sans avoir vu. Et quand il montre à Thomas, Thomas, il arrive, cet arabe, il met tes doigts dans mes plaies, met tes mains dans mon côté, bon. Voilà, il lui fait toucher. C'est en même temps un corps, et chose importante, c'est un corps glorifié, mais c'est un corps qui est glorifié dans ses blessures. Et ça, c'est vraiment important. C'est pas un corps bodybuildé ou voilà, impeccable, beau gosse, le premier de la classe. Non, c'est il y a les plaies qui sont encore présentes dans le corps glorifié. Mais ces plaies-là, elles sont lumineuses. Et les plaies, nous arriverons, il y a des plaies de l'âme aussi. Il y a des souffrances de l'âme qui viennent des manques d'amour, des manques, etc., etc., des manques de respect de son propre corps qui retentissent dans notre âme, dans notre sensibilité, dans notre affectivité, dans notre même manière de voir et de comprendre les choses. Mais ces plaies-là en Dieu seront glorifiées, elles seront lumineuses. C'est ce que dit le psaume, hein. Deux rayons sortent de ses mains, c'est là que se tient cachée sa puissance. C'est le psaume, donc, antérieur au Christ. C'est, donc, et ça c'est important. Donc c'est un corps glorieux, on n'en a pas l'expérience. On fait confiance, on fait foi au témoignage des apôtres, et de Marie-Madeleine, et des saintes femmes, et de ceux qui ont. Voilà. Et puis à saint Paul aussi qui a eu cette expérience, il n'a pas vu le corps glorieux du Christ bien sûr, mais cette expérience du ressuscité.
Pour revenir au handicap, donc une personne qui soit dans sa chair, donc avec un handicap physique, près de Dieu, elle
sera toujours avec son handicap. Mais qui sera glorieux. C'est-à-dire que ce ne sera plus une gêne, ce ne sera plus une limite, alors que sur cette terre, ça l'est. Ah oui, ah ben non, ben non, non, il n'y a plus de douleur, etc. Parce que si on pense au paradis, on pense une plénitude de bonheur, hein, quelles que soient, je veux dire, les religions. Donc il n'y a pas de place pour le mal ne rentre pas au paradis. C'est ce qui fait aussi que la question du purgatoire, la question du purgatoire, du devenir de l'âme après la mort, il y a ceux qui, à mon avis rare, sont damnés, se sont damnés, ont choisi eux-mêmes de nier Dieu le connaissant. À mon avis, c'est quand même pas la, c'est pas simplement des péchés de faiblesse, etc. Bon, il y a les saints qui ont préparé leur cœur pour, ou les personnes qui, sans être baptisées, ont vécu selon leur conscience et ont fait le bien sur la terre. Et puis il y a la grande majorité des gens qui ont à purifier leur amour. Et qu'est-ce qui va purifier l'amour? C'est la vision de Dieu. La vision de Dieu. Mais je suis pas encore dans cette communion. Je suis dans cet état de l'âme où je, la sortie du purgatoire, ce n'est que le paradis. Ça peut pas, c'est one way. Donc du coup. C'est je purifie mon âme parce qu'il y a des choses en moi à purifier, et qu'est-ce qui purifie? C'est l'amour, et la vision de l'amour de Dieu purifiera mon âme de toutes les scories, dureté de cœur, jalousie, impureté de toutes sortes, voilà, toutes ces scories qui m'habitent, ben c'est l'amour de Dieu qui viendra purifier comme un brasier ardent viendra purifier mon âme. Et du coup, pour ça qu'on prie pour les fidèles défunts et singulièrement les âmes du purgatoire. Parce que pour demander au Seigneur que, voilà, que ces âmes soient purifiées puis rentrées dans la gloire de Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle la communion des saints. On prie les uns pour les autres. Et on demande aussi aux saints de prier pour nous, fidèles défunts. Bon. Alors, les saints qui sont canonisés, donc l'Église s'est prononcée, ils sont dans la gloire de Dieu. Et puis il y a tous les autres qui sont en chemin. Mais voilà, c'est important de dire que nos humanités seront glorifiées avec ce que l'on est, encore une fois. C'est pas avec un autre corps. C'est parce que le principe de l'âme est le principe de vie de ce corps-là. Et du coup, coup, saint Thomas d'Aquin posait la question, mais est-ce que les gros ressusciteront gros ? Et est-ce que, parce que lui-même était très, très corpulent. Voilà. Est-ce que, il posait, je ne me rappelle plus la réponse, du coup, il argumente tout, etc., comme saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin. Hein, donc, voilà. Donc, c'est intéressant, de ce respect du corps et cette glorification. Donc, du coup, ça s'enracine, évidemment, dans la résurrection du Christ, hein, qui rendra définitivement la vie incorruptible à nos corps en les unissant à nos âmes par la vertu de la résurrection du Christ. Hein, on sera, voilà, donc. Ensuite, qui ressuscitera ? Tous les hommes sont morts. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, ceux qui auront fait le mal pour la damnation. Et là, vous avez des, soit en Daniel 12, donc c'est l'Ancien Testament, soit Jean 5, donc dans le Nouveau Testament. Donc, tous seront appelés à bénéficier de cette gloire de Dieu, mais en fonction de... D'où l'importance de se préparer sur cette terre. On n'a qu'une vie, dit la petite Thérèse, pour vivre de foi. D'où l'importance de l'évangélisation, d'éclairer les consciences, de faire avancer dans notre vie spirituelle pour se préparer au moment de la mort. Se préparer avec cette rencontre avec Dieu. Et que dans les litanies, vous entendez, de la mort subite, délivre-nous Seigneur. C'est-à-dire de la mort où on ne peut pas se préparer. Et présenter son âme à Dieu. Alors, le suicide, c'est la même question qui a été posée au curé d'Ars que nous fêtons aujourd'hui. Une femme complètement... Parce que alors, les suicidés n'étaient pas enterrés à l'église. Hein, donc, c'est assez récent que c'est... Donc... le curé, une femme arrive en pleurs, etc. Mon mari s'est jeté du pont, etc. S'est noyé, mort. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage de la vie du curé d'Ars. Et le curé d'Ars lui dit, entre le pont et l'eau, il y a la miséricorde. On ne peut rien dire, c'est bon. En quoi... On a été visiter une carrière de pierre qui est proche de l'abbaye, etc. Et la personne qui nous faisait visiter cette carrière, cette femme-là, bon, on sympathie, etc. Elle nous dit à un moment donné que son fils s'est suicidé. Mais son fils avait fait une retraite à Wurskamp de profession de foi ou choses comme ça et n'avait pas échappé au zèle indéfectible du frère Gérard, qui distribue les chapelets Ubi et Torbi, et donc avait reçu un chapelet. Et il s'est suicidé avec le chapelet en main. Non mais... oui, bon, Isabelle... on est en connexion directe. C'est l'ascenseur, l'ascension de l'ascenseur, etc. Si vous avez l'occasion d'aller à Wurskamp, vous ne pourrez pas échapper à notre cher frère Gérard. Voilà, mais on se dit, à un moment donné, il y a des souffrances, des vies qui sont tellement douloureuses, tellement, ou des découragements, ou des attaques aussi du démon, que de désespérance, etc. Mais en même temps, voilà, des personnes qui soit demandent pardon au Seigneur, soit... Voilà, entre le pont et l'eau, il y a la miséricorde.
Parce que quand la volonté est atteinte,
et
que c'est vraiment la maladie.
Oui, alors c'est ça. Des grandes dépressions, par exemple, etc. Bon, des personnes comme ça qui sont. Ou d'autres personnes dont on ne saurait jamais suspecter, on est au courant de rien, il y a le suicide. D'où l'importance de prier pour les personnes, du coup, la célébration. Alors, juste pour vous avez parlé de la crémation. La crémation qui est faite en haine de la foi, évidemment n'est pas acceptée. Hein, et on ne peut faire une prière à l'église de funérailles, donc pas simplement une prière pour la personne défunte. Là, on peut faire tous les jours, offrir des messes pour les défunts, justement offrir le sacrifice du Christ pour les défunts. Mais lors de l'enterrement, l'enterrement se fait avec le corps présent. C'est aussi important que le corps du défunt, il est encensé, même le respect du cadavre Et toutes les lois concernant les cadavres, etc., dans le droit français, j'allais dire européen, etc., viennent de la dignité du corps humain. On ne peut pas faire, c'est très réglementé. Tout ce qui est cadavre, tout ce qui est bon, déterrer les morts, tout ça c'est des délits, des choses qui sont mauvais traitement fait aux cadavres ou aux amputations, tout ça, parce que le cadavre, c'est très réglementé. Si vous avez peut-être enterré vos grands-parents ou parents, etc., ne serait-ce que transporter un cercueil d'un bout à l'autre de la France, il faut des autorisations préfectorales, il faut des tas d'autorisations. Mais je trouve ça beau, parce que quelque part, il y a ce sens que même cette vie qui n'existe pas, le cadavre a été, ce corps-là a été pour nous le temple du Saint-Esprit. Et donc mérite aussi une dignité. On ne fait pas n'importe quoi, à la différence des traditions asiatiques de crémation. Voilà, parce que le corps n'a pas cette importance-là qu'on lui donne. Ce n'est pas des religions de l'incarnation. De toute façon, il y a le karma. Le karma, donc, on revient. Donc, oui, croire en la réincarnation et croire à la résurrection, ce n'est pas du tout le même rapport au temps. Pour nous, le temps, il est fléché. Il y a un début, il y a une fin. Mais quand vous croyez au karma, c'est un temps circulaire. Si ce n'est pas fait aujourd'hui, ben ce sera fait demain. Quoi. De toute façon, sinon on remettra ça dans l'autre vie. Quoi. Puis, c'est un temps circulaire. Donc même dans le rapport au travail, nous, notre temps, il est compté. Donc on sent que le temps est compté, etc. Et qu'il y a un temps qui a une direction. Il y a comme une urgence dans le temps. Parce que précisément, il y a la... Il y a la résurrection, il y a un début, il y a une fin. On n'a qu'une vie pour vivre deux fois, on n'a qu'une vie sur Terre pour aimer d'un amour humain, d'un amour de charité, on n'a qu'une vie. Donc il y a une urgence, il y a cette notion de et c'est qui est très belle, de la vie chrétienne, c'est ça urge. Hein. Caritas urget nos, hein, c'est Saint Paul. L'amour nous urge, nous brûle. Parce que bon. Oui. Oui, ah ben, il faut demander, oui, parce que ces personnes-là n'ont pas eu le temps de se préparer. Mais à combien de personnes on a dit. Combien parfois c'est difficile quand vous proposez à sans parler de mort subite, le sacrement des malades, etc. Combien de personnes, non, ne veulent pas, oui, mais je ne suis pas encore mort, que tu vois, tu veux mon héritage, quoi, j'en sais rien. Non, mais vous voyez, c'est encore dans les mentalités que le sacrement des malades, c'est pour... moi, maman va être opérée, là, parce qu'elle a un problème à la colonne, etc. Je dis, mais maman, ce serait bien d'avoir le sacrement des malades, elle était d'accord, tout à fait. Hein, moi, je me suis cassé la jambe, je me suis fait opérer, j'ai demandé le sacrement des malades en communauté. Voilà, c'est le soutien spirituel donné aux malades, hein, comme le Christ lui-même est venu soulager les malades. Donc, les personnes, oui, c'est des personnes qui sont mortes de mort subite, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Mais, je veux dire, beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas été, dont la vie spirituelle est restée en jachère, j'allais dire, même baptisée, j'allais dire, beaucoup de gens qui sont défunts en France, sont baptisés, la plupart des défunts. C'est resté en jachère. C'est, donc, du coup, d'où l'importance d'éveiller, d'évangéliser, de transmettre. Et, voilà, c'est, et dans les enterrements, les gens écoutent. Hein, les gens écoutent dans les enterrements parce qu'ils se disent, ben voilà. Dans une... Oui, elles voient Dieu... Il y a le fait de voir Dieu sans pouvoir communier pleinement. Et c'est cette purification de l'âme par la vision de Dieu. Mais elles ne sont pas dans la plénitude. Il n'y a pas une réconciliation totale. Voilà, donc on demande que cette réconciliation ait lieu à un moment donné. Parce qu'il n'y a que l'amour qui rentre dans le royaume des cieux, c'est évident. Il ne peut pas y avoir d'autre chose. Il ne peut pas y avoir de dureté de cœur. Il ne peut pas y avoir de jalousie. On rentre. Après la mort, notre âme garde aussi ses facultés. Et d'où l'importance de la conviction, de la conversion, avant la mort. Parce qu'on C'est comme on est qu'on rentre dans le royaume des cieux. C'est pas, on se fond pas dans le grand tout. C'est comme on est qu'on rentre. Donc aussi, avec, si sa volonté, elle était marquée par le mal, par la jalousie, par etc. Et notre intelligence, par le désir de détruire l'autre. Et bon, ben on rentre comme ça dans le royaume. Donc du coup, mais il y a que l'amour qui rentre dans le royaume. Donc il n'est pas interdit de penser, encore une fois, argument de convenance, que il y a un moment donné une étape où la personne, n'étant pas dans une logique de damnation, de nier Dieu, le connaissant et avec toute sa fermeté, le voulant nier, mais une étape de purification. Voilà, c'est. Mais qu'est-ce qui purifie? C'est l'amour. C'est la vision de l'amour qui viendra purifier nos volontés, nos intelligences. Ah non, le corps est ressuscité à la fin des temps. Je crois, hein, c'est la résurrection de la chair, c'est. Il viendra, c'est au dernier jour. Ne sont avec que leur corps et leur âme, le Christ et la Vierge Marie, comme figure de ce qui nous attend, comme anticipation, comme surtout Marie comme personne humaine, celle qui monte le chemin, etc. C'est comme source d'espérance pour les croyants. Mais le corps, mais encore une fois, ce que dit saint Thomas d'Aquin, c'est que l'âme sans le corps est dans un état de violence. On n'est pas, il n'y a pas de plénitude dans le royaume sans notre corps, même s'il y a une plénitude. Mais pour que vraiment on soit complètement réconcilié, notre corps doit être embarqué. Et ça, il n'y a que les chrétiens qui croient ça. Et je trouve ça très beau. Oui, alors comment est-ce qu'on a pu avoir l'apparition d'un saint, etc. Notre père Lamy, qui est un mystique, etc., a eu l'apparition de gens de son village, qui étaient défunts, etc. Ben, c'est que, quelque part, de même, comment expliquer que la Vierge l'apparaît avec Bridé en Asie, avec Jésus Bridé en Asie, la Vierge Noire en Afrique. Voilà, c'est que selon la on reçoit selon la manière qu'on est apte à recevoir. Donc, du coup. Selon ce qu'on est, quelque part, c'est une image, mais ça ne veut pas dire que la personne est avec son corps. Ce n'est pas matérialitaire. C'est pas en fonction, je ne suis pas là pour le toucher. Je veux dire, parce que je ne peux pas imaginer une réalité spirituelle. Que spirituelle ça, parce qu'on est tellement ancré dans la matière qu'on ne peut pas s'imaginer. Donc, forcément, on connaît selon notre mode de connaissance et notre mode de connaissance implique la matière. Donc, s'il y a des personnes qui. Sont qui nous, de l'au-delà qui nous apparaissent à certains, ben, ils apparaissent selon le mode avec lequel on connaît, c'est-à-dire aussi avec leur corps. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont ressuscités. De même, Lazare, autre chose, parce qu'on dit, mais Lazare, il a été ressuscité, etc. On ne parle pas de résurrection, c'est un peu abusif, on parle de réanimation, que le corps est revenu, l'âme est revenue au corps. Mais Lazare est mort, sinon ça se saurait. Alors, peut-être, oui. Alors les enfants qui sont décédés avant le baptême, bon, là, c'est pareil, c'est soit les parents avaient le désir de les baptiser, et donc du coup il y a ce qu'on appelle le baptême de désir, qui vaut baptême, c'est-à-dire parce que ben, c'est parfois il y a des morts subies du nourrisson, voilà, bon, des trucs comme ça. Mais on avait déjà fixé la date, dans l'intention c'était vraiment bon. Et puis les personnes qui ne sont pas chrétiennes, voilà, ces enfants-là sont pris dans la miséricorde de Dieu. Je veux dire, je pense que, mais ça, en tout cas pour nous chrétiens, parce qu'il y a des gens qui sont très affligés quand leurs enfants, déjà, quand un nourrisson décède, bon, c'est déjà un grand drame. Mais en fortiori, s'il n'a pas été baptisé, du coup, les gens se culpabilisent beaucoup. Ça, du coup, de leur dire, non, il y a le baptême de désir. De même, le martyr, le martyr vaut baptême. Si vous voulez pas vous faire baptiser, faites-vous martyriser comme ça. Voilà, on va arrêter.